Comme à l'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin. Bonjour Jean-François.
Bonjour Bruno.
Jean-François, cette semaine, on parle de UX, mais c'est intéressant parce que c'est un sujet qu'on aborde peu souvent. Je regarde dans toutes les années, on l'a fait, ça, on en a parlé, mais pas autant que le UX d'interface d'utilisation, d'expérience client. Là, tu t'es intéressé cette semaine avec ton invité à l'approche UX lorsque vient le temps d'expliquer les choses dans un texte.
Oui, puis ça se résume assez bien à dire qu'en général, on se concentre sur le contenant, mais on oublie le contenu. Et pourtant, le contenu, il nous impressionne à chaque fois qu'on le voit dans des applications, sur des sites et autres. Et ça peut paraître anodin, mais c'est le ton avec lequel on nous parle, la simplicité qu'on a d'expliquer les choses, les messages d'erreur qui peuvent être super mal faits, voire pas faits, ou qui sont laissés au gré des programmeurs qui vont nous dire une erreur 404.
Erreur 4, c'est ça exactement, oui.
Mais bad server error que j'avais la semaine dernière sur le site du gouvernement du Québec, c'est plus acceptable. C'est juste parce que c'est des choses qu'il faut avoir planifiées à l'avance. Et donc, cette semaine, j'ai parlé avec Stéphanie Roy, avec qui on a déjà parlé, qui est une compagnie qui est spécialisée dans la gestion du contenu. Là où moi, je suis spécialisé avec ma compagnie plus dans le contenant, donc il y a un futur partenariat dans l'air.
De par la complémentarité.
Non, pas du tout. Mais donc, Stéphanie, on se rappelle, est avocate, est legal designer, spécialiste en simplification du contenu. Et puis, là-dedans, elle nous parle d'une norme internationale ISO qui est en train d'être mise en place. Donc, on peut peut-être imaginer qu'un jour, on va peut-être légiférer là-dessus au Canada pour forcer un peu les gens à être plus clairs. Puis, plus clair, là, ça peut être au niveau évidemment, ça peut toucher rapidement au niveau des contrats, puis au niveau du site web, tout ça, pour des fois des choses qui peuvent induire en erreur les clients ou les visiteurs du site, là.
Mais là, une norme ISO, c'est quoi? On parle de UX de langage?
Ah, oui, absolument. Ouais. Ben, pas le UX nécessairement, mais le langage, la clarté du langage.
Mais donc, une norme ISO pour le langage?
Oui, oui.
Wow.
Pour la clarté des explications.
Et les entreprises pourraient aller chercher ça ou ce serait les spécialistes qui aident les entreprises?
C'est ça, pour l'instant, je pense que ça va être des spécialistes qui vont aider les entreprises. Je pense qu'il y a une façon de penser pour arriver à rester simple. Tu te rappelles, je ne sais pas si je n'avais parlé ici, mais Stéphanie, dans une de ses présentations, nous parle d'organisations en Europe qui font venir des travailleurs immigrants pour ramasser des fruits. Ben, à un moment donné, ils se sont rendus compte que le faire signer un contrat écrit, ça ne servait à rien parce que les gens ne pouvaient pas le comprendre. Alors, ils ont fait littéralement une bande dessinée qui fait foi de contrat légal avec les gens, qui illustre bien que si tu cueilles tel fruit, tu vas avoir tel montant d'argent. Et c'est illustré, là, c'est une page. Et on se rend compte avec ça, par l'absurde dans ce cas-ci, mais l'absurde légal, que tu peux aller jusque-là pour être bien compris par les gens. Et ça peut nuire, tu sais, quand dans des compagnies automobiles, des compagnies qui font des contrats très, très longs pour te lier un peu à la voiture que tu vas acheter, ça peut être très intimidant pour un client et donc potentiellement arrêter une vente. Donc, il n'y a rien de mal non plus à faire des contrats qui sont simples.
Belle mise en place de l'entrevue avec Stéphanie Roy. Jean-François, merci beaucoup d'avoir abordé ce sujet-là et puis de nous représenter comme ça, Stéphanie Roy. Merci. On se retrouve la semaine prochaine.
Merci, Bruno. À la semaine prochaine.
Salut, bye.
Bye. Stéphanie, dis-moi, c'est quoi la norme ISO sur le langage clair?
Donc, la norme ISO sur le langage clair, je ne sais pas déjà si les gens qui nous écoutent savent ce qu'est une norme ISO, mais c'est les normes qui sont établies à l'échelle internationale sur différents éléments que les organisations peuvent ou doivent respecter, donc selon si la norme est obligatoire ou non. Et, tu sais, par exemple, il y a souvent des normes de sécurité internationale, les normes de sécurité alimentaire, les normes de sécurité pour les sièges auto d'enfants. Là, bon, ben, tu sais, la norme ISO établit ce genre de règles internationales. Et celle sur le langage clair, ben, vous vous en doutez, là, c'est toutes les règles et les principes pour s'assurer que les contenus que l'on crée, que ce soit des contenus papier, numérique, quel que soit le format, du contenu politique, contrat, outils, tous ces genres de contenus-là, soient réellement clairs et utiles pour les utilisateurs de ces contenus-là. Donc, c'est cette norme ISO qui, aujourd'hui, maintenant depuis juin 2023, là, c'est assez nouveau là, comme oui. Norme ISO, qui établit les principes à respecter pour y arriver. Et en ce moment aussi, là, le même comité qui a mis en branle cette norme ISO sur le langage clair, là, est en train de mettre en branle les principes du langage clair pour les documents juridiques. Donc, tu sais, c'est comme un dossier qui est encore ouvert, là. Vous allez voir là, circuler ça un peu si vous vous y intéressez. Mais donc, voilà.
Mais et donc, c'est une norme donc internationale, mais est-ce qu'il y a une implication légale au Canada ou au Québec d'appliquer ça là, en ce moment?
Non, en fait, les normes ISO, quand elles sont adoptées à l'échelle internationale, puis c'est un processus extrêmement rigoureux, là, n'a pas quiconque peut créer une norme ISO. D'ailleurs, c'est pas l'organisation qui décide de créer la norme ISO, c'est vraiment une industrie qui fait la demande à ISO de créer des principes, une norme pour certains éléments X, là, donc ici, le langage clair. Et quand, à l'échelle internationale, ça a été adopté, puis tu sais, les équipes, les comités qui mettent en place ces normes-là, c'est vraiment des équipes multidisciplinaires internationales. Donc, il y a vraiment un consensus international autour des règles qui sont là. Donc, en soi, quand elle est adoptée à l'échelle internationale, elle a une valeur importante pour tout pays ou organisation qui veulent respecter la norme. Mais pour qu'elle soit vraiment, je sais pas, qu'elle ait une valeur vraiment légale là, au sein d'un pays, il faut qu'elle soit adoptée notamment par l'agence nationale. Là, il y a des agences nationales de normes et par le pays en question. Mais ça ne veut pas dire que si le pays ne l'a pas adoptée, elle n'a pas un poids. Les normes ISO ont un poids en soi à l'échelle internationale pour les organisations. Donc, ne serait-ce que si une organisation veut démontrer sa rigueur dans la méthodologie qu'elle met en place pour s'assurer que ses contenus sont clairs et simples, qui répondent vraiment aux besoins des utilisateurs, ben de dire qu'elle a suivi la méthodologie et les principes mis en place par une norme ISO qui existe, qui est le résultat d'un consensus international d'experts, ben elle démontre son souci de rigueur et de transparence dans cette expertise-là, parce que c'est une expertise, le langage clair, de s'assurer que les contenus sont réellement compris et utile.
Et théoriquement, c'est un bénéfice pour une organisation d'avoir un langage clair. Est-ce qu'il est possible d'être certifié ISO langage clair à court terme, là, avant que ça devienne une loi, mais même avant que ça pourra devenir une loi un jour, mais je veux dire, il y a quand même un bénéfice pour une organisation de dire, ben là, tout ce que j'ai créé, tout ce que je fais, puis toutes les relations que j'ai avec mes clients ou mes citoyens ou autres est clair et simple à comprendre. Là.
Excellente question. Ben en fait, il y a trois niveaux de normes ISO. Celle qui est au-dessus, là, c'est la norme ISO qu'ils appellent mandatory, donc vraiment obligatoire, et qui, elles, peuvent permettre une certification. Donc, tu peux te dire, je suis certifié ISO pour X, Y, Z, par exemple, des normes de sécurité. Il y a des usines qui sont obligées pour même pouvoir opérer, respecter ce genre de normes. La norme ISO sur le langage clair, elle est pas obligatoire. C'est ce qu'on appelle le niveau 2. Donc, c'est un guide. Donc, c'est vraiment des principes qui sont vraiment maintenant un consensus international pour dire si vous respectez bien ces principes-là, vous avez la méthodologie et la rigueur pour en arriver à un contenu qui est clair et simple. Donc, il n'y a pas encore ce niveau de certification-là parce que le groupe, le comité qui a travaillé sur ça n'était pas prêt encore à aller là parce que ça implique plein de choses. Hein. Tu sais, qui va certifier que c'est un langage clair? Là? C'est pas aussi simple qu'une norme avec des chiffres là, puis des statistiques ou des mesures précises. Donc, il y a beaucoup d'éléments dont il faut tenir compte. Est-ce que ce sera un comité international, etc.? Donc, le comité est en train d'évaluer. Là, il y a vraiment un comité de certification mis en place en ce moment pour évaluer. Est-ce que c'est possible? Si oui, quels en seront les paramètres, les conditions? Et là, on pourrait aller au prochain niveau de normes ISO pour avoir ce type de certification-là.
Parce qu'en théorie, dans ce genre d'amélioration-là, on peut aller très, très loin. Je me souviens d'une conférence que tu as donnée où tu parlais d'une compagnie en Europe qui faisait des contrats sous la forme littéralement de bande dessinée pour être certain d'être compris par leurs ouvriers qui ne parlaient pas nécessairement la langue français ou en fait les langues très locales, ça peut être des gens des pays de l'Est. Donc, on peut aller jusque-là quand on veut vraiment bien desservir les gens à qui on veut parler, mais c'est difficile à mesurer, effectivement.
Oui, tout à fait. Puis la norme ISO, ben c'est intéressant que tu ressortes cet exemple-là parce que d'autant plus, tu me parles d'un contrat. Donc, tu sais, les contrats, souvent, on va penser qu'il faut que ça soit nécessairement textuel, extrêmement formel, présenté d'une certaine façon pour que ça ait la valeur d'un contrat. Or, non, il n'y a rien dans la loi, il n'y a rien en droit qui nécessite que les contrats soient conçus comme tels pour être vraiment, avoir une valeur de contrat. Un contrat, c'est juste une entente entre deux personnes. Donc, oui, effectivement, donc tout type de contenu, quel qu'il soit, et pour mesurer, justement, est-ce que le contenu est réellement clair ou non, que ce soit un contrat, un contenu web, anglais, peu importe, ben, la norme ISO, donc, va établir cette méthodologie-là. Et évidemment, et quiconque travaille dans le UX et la communication vont se sentir interpellé par cette norme ISO sur le langage clair. Ben, dans les quatre grands principes, le premier au départ, c'est de bien comprendre son public cible et donc vraiment ses idées préconçues, ses perceptions, son rapport à la technologie, etc. De faire de la recherche, de faire des entrevues, etc. Et à la toute fin, donc dans les derniers principes, c'est pour s'assurer que ce que tu as créé est réellement utile, ben, il faut que tu testes. Et donc de développer cette méthodologie aussi de test qui n'est pas quelque chose qu'on improvise. Hein. Il y a vraiment, les tests sont, tu le sais bien en tant qu'expert UX, là, mais donc pour faire des bons textes et avoir des résultats qui sont vraiment probants, ben, il y a des façons de faire, il y a des experts pour poser les bonnes questions, utiliser la bonne méthodologie selon le contexte, puis s'assurer donc vraiment les contenus qu'on a créés.
Parce que, ne serait-ce que pour être objectif, tester soi-même ce qu'on vient de concevoir, c'est un non. On ne fait pas ça.
Effectivement, nécessairement, malgré toutes nos bonnes intentions, on va être biaisé nécessairement. Voilà. Puis donc, si on veut vraiment là, s'assurer que ce qu'on a fait, on l'a fait avec les bonnes prémices de base. Ben oui, il vaut mieux aller chercher quelqu'un de neutre et d'externe pour poser les bonnes questions.
Et on l'a dit tout à l'heure avec l'exemple de la bande dessinée, si ces compagnies-là n'avaient pas déterminé que leur personnel et les gens qui étaient leurs travailleurs ne parlaient pas la langue, ben, ils ont dû s'en apercevoir quand même à un moment donné. Mais il a fallu un effort conscient de dire, ben là, on va faire des contrats juste en images qui peuvent être compris par tous. C'est quand même, ça a pris un effort de recherche pour en arriver à faire ça, là.
Ben oui, puis je pense que tu le sais comme moi, dans ce genre de projet où on veut s'assurer de répondre aux besoins des utilisateurs, tu sais, comme là, justement, il y avait des travailleurs de différentes langues, différentes cultures. Puis là, tu te dis à un moment donné, oui, mais est-ce que je vais vraiment faire, parce que là, il y a aussi les objectifs organisationnels et la réalité organisationnelle derrière ça, je vais-tu vraiment faire un contrat dans chacune des langues, puis là, chaque contrat adapté à la culture X, Y, Z, puis tu sais, probablement qu'ils sont peut-être, et là, j'en sais rien, mais inspirés sur IKEA qui, eux, ben maintenant, les normes de sécurité, ou même, je dis IKEA, mais c'est Tulle aussi. J'avais été impressionnée, c'est Tulle là, qui fait plein d'équipements, mais entre autres, les chariots pour enfants. Et toutes les mesures de sécurité, c'est des dessins, il n'y a aucun mot. Et on l'avait testé avec différentes personnes autour de nous, puis on se disait, c'est quand même des mesures de sécurité pour enfants importantes. Puis finalement, le visuel avait un impact beaucoup plus fort et compréhensible pour tous.
Pour tous.
Ben, pourquoi ce serait pas la même chose pour des contrats? Donc, tu sais, dans cette démarche-là aussi de langage clair, c'est de dire ben aussi quelle est la meilleure stratégie puis la plus efficiente aussi pour l'organisation que d'avoir 20 modèles de contrats. Ben là, on pourrait en avoir un seul, mais avec des visuels, tu sais, sans mots, finalement. Ouais.
Donc, à court terme, c'est pas une obligation, donc c'est pas encore une loi, là, c'est pas la loi 25, faut pas confondre, mais il y a quand même des avantages indéniables à faire ce processus-là parce qu'il y a fort probablement même de l'argent à sauver ou à faire.
Ah, ben, tout à fait. Là, je veux dire, au niveau de l'argent direct ou indirect, que ce soit justement là, des équipes internes plus productives, moins d'erreurs qui sont commises, des équipes qui sont plus faciles à former. On sait qu'on est dans une pénurie de main-d'œuvre, les équipes, on perd des employés, ça revient. Donc, comment faire en sorte que tout ce qu'on fait à l'interne pour nos clients, nos fournisseurs, mais aussi pour nos employés, soit plus simple, plus efficient, plus utile, ben en appliquant cette méthodologie-là. Puis dans cette méthodologie-là, je le souligne parce que souvent c'est méconnu, mais de cartographier aussi les différents processus à l'interne. Tu sais, je vous donnais l'exemple du formulaire pour les risques de renseignements personnels, mais c'est de dire, OK, il a un employé dans un département X, c'est quoi l'expérience de A à Z de manipuler ces renseignements personnels. De parcours, le fameux parcours. Donc, ça aussi, ça fait partie de cette démarche-là de langage clair. Fait que, en conclusion, c'est de dire, je parle de normes ISO sur le langage clair, mais finalement, l'expression langage clair est un peu trop restrictif finalement de ce qu'évoque cette norme-là. C'est pas juste une question de mots ou de mots clairs ou de phrases courtes. C'est vraiment une méthodologie qui est de création de contenu qui est centrée sur les besoins des utilisateurs, donc vraiment dans une démarche UX.
De vraiment cartographier l'ensemble de l'expérience. Après, dans cette expérience globale, il y a plein de petits points qui peuvent être des problèmes, d'autres qu'on peut régler des fois, comme tu le disais tout à l'heure sur avec les policiers, ça a été réglé en deux lignes, puis ça a diminué de 16% les appels. Il y a un coût à ça. Donc, il y a un avantage certain.
Écoute, majeur, puis je pense que on dit souvent dans le milieu dans la communauté internationale du langage clair qu'on n'a pas beaucoup de mesures statistiques parce que l'impact est tellement évident. Je veux dire, les organisations vivent du jour au lendemain l'impact oui. de cette fluidité-là, de cette simplicité-là, que ça vaut même pas la peine de mesurer le avant-après. Mais il demeure que c'est quand même important de le faire, ne serait-ce que pour continuer. Tu sais, je dis toujours que c'est pas statique, là, ces contenus-là. Il faut les faire évoluer. Donc, de s'assurer de vraiment évaluer, d'avoir des indicateurs de performance, puis s'assurer toujours de dire, OK, on peut faire mieux encore. Puis de toute façon, nos publics cibles évoluent, le contexte évolue. Donc, il faut toujours garder en tête.
Toujours être au taguet. Ouais, les générations passent, échangent, et il faut en tenir compte tout le temps, tout le temps. Stéphanie, j'aimerais te remercier vraiment beaucoup pour cette conversation. C'était super instructif, comme d'habitude.
Merci.